Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Mon nom est Abdou Sall et voici l'épisode numéro 58. Oui, 58. Au menu cette semaine, on revient sur le seul et unique Grand Prix de l'Eifel disputé sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, mettant en vedette Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg et quelques autres pilotes, et on va parler entre autres du calendrier possible 2021, parce que la saison approche, la saison se termine bientôt, alors nous allons parler un peu de cela. Alors mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Alors pour revenir sur cette course, sous le froid allemand, on accueille avec nous Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Ça va bien, un peu grippé, mais inquiétez-vous pas, je suis allé me faire dépister et ce n'est pas la COVID-19.
Yeah! Au moins, c'est une bonne nouvelle.
C'est bizarre pour les prochaines semaines, là, jusqu'à temps que le rhume parte, là, ça va être bizarre de passer dans des magasins, j'imagine.
Ouais, surtout en cette période difficile. Oui. Et surtout quand tu as presque les symptômes similaires exact. À ceux de la COVID-19. Mais Dieu merci, tu vas bien, puis on te souhaite un prompt rétablissement en plus de cela.
Merci beaucoup.
Et on a Anna Maria Mercado López. Bonsoir, Anna Maria.
Bonsoir, deux.
Comment ça va?
Et ça va bien. Pas de COVID par ici.
Dieu merci. Même chose pour moi aussi. Alors, on est très contents. Bon, au moins, on n'est pas affecté personnellement, mais on va toucher du bois pour que ça continue. On va parler du Grand Prix de l'Eifel 2020 qui était disputé la fin de semaine dernière au Nürburgring. Et je dois dire que c'est une course historique, mais sans vouloir être salty comme nous les millennials on dit, cette course aurait dû être à Montréal. Mais avec la situation actuelle, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça a été même confirmé que le Grand Prix du Canada, n'eût été d'une deuxième vague, aurait eu lieu au circuit Gilles Villeneuve cette fin de semaine. Alors, mais la course a eu lieu au Nürburgring, puis c'est encore mieux en plus de cela. Alors, Lewis Hamilton a remporté sa 91e victoire en carrière, égalant ainsi la marque de Michael Schumacher, qui tenait depuis le Grand Prix de Chine 2006. Deuxième, c'est Max Verstappen sur le Red Bull. Troisième, Daniel Ricciardo, non pas sur une Red Bull, mais au volant d'une Renault. Encore moins une Red Bull Renault, mais c'est une Renault tout court. En quatrième, on a la Racing Point de Sergio Perez. Cinquième, on a Carlos Sainz sur McLaren. Pierre Gasly, sixième sur la AlphaTauri. Charles Leclerc, septième sur la Ferrari, c'est ça. Huitième, Nico Hülkenberg. Oui, Nico Hülkenberg. Pourquoi il est là, on vous expliquera plus tard. Neuvième, Romain Grosjean. Oui, Romain Grosjean qui marque ses premiers points de la saison. Il est une première depuis Allemagne 2019. Et Antonio Giovinazzi est dixième et marque le dernier point. Alors, comme je l'ai dit, Lewis Hamilton a finalement atteint la marque établie par Michael Schumacher et qui tenait depuis 14 ans. Là, c'est clair. Et c'est indéniable, en fait. Lewis Hamilton fait partie des grands. Je sais qu'il y en a, il y a ces détracteurs qui disent que oui, c'est à cause de la voiture et tout, mais il faut, tu peux pas dire que c'est la meilleure voiture s'il y a quelqu'un qui n'est, s'il y a quelqu'un qui est pas capable de, d'amener cette voiture au sommet. Alors, ce que Lewis Hamilton, autant que Michael Schumacher, que Ayrton Senna, Alain Prost, et toutes les légendes qu'on connaît, même Sébastien Vettel, même toutes ces légendes dont je parle, même jusqu'à Jim Clark et Juan Manuel Fangio ont fait, eh bien, oui, ils avaient la plupart du temps la meilleure voiture et tout un personnel aussi pour l'aider. Et ça a été le cas, entre autres, en fin de semaine pour Hamilton, qui est parti deuxième, qui a profité d'un blocage de roue de Valtteri Bottas au 13e tour pour prendre les commandes. Et Bottas, malheureusement, a abandonné. Marc-André, Anna-Maria, la question, est-ce que vous pensez que Hamilton, c'est le meilleur ou bien c'est un des meilleurs?
Ce fameux débat qui, je pense, ne finira plus. Ça ressemble un peu au débat de Michael Jordan avec LeBron James hein, dans le au basket.
Ouais.
Ce sont deux légendes qui s'échangent la place de meilleur, mais est-ce qu'on peut vraiment trouver, est-ce qu'on peut vraiment regarder les deux puis se dire qu'il y en a un de meilleur alors qu'ils n'ont pas joué dans la même époque, ils n'ont pas coursé dans la même époque. Schumacher a terminé quand même dans notre décennie dans ce moment, mais quand même, ça reste qu'ils n'ont pas évolué en même temps. Donc, c'est très difficile de déterminer s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais je peux dire que je me suis levé lundi avec des petits papillons en me disant que lorsque j'aurai des enfants, si j'en ai, je pourrais dire que j'ai vu courser Lewis Hamilton. Comme mon père m'a raconté des histoires sur Michael Schumacher, j'étais beaucoup trop petit pour l'avoir vu évoluer, mais j'avais pouvoir propager à quel point Lewis Hamilton était un bon pilote, à quel point il a marqué la Formule 1, et ça, c'est une journée dimanche spéciale pour lui, et ça va que continuer là, de son côté.
Oui, Anna Maria?
Et oui, mais comme le dit Marc-André, c'est spécial quand même si le monde dit que c'est parce que c'est la meilleure voiture, mais on a besoin toujours que le motosport est toujours un sport d'équipe. Il n'y a pas pilote sans voiture, il n'y a pas voiture sans pilote, il n'y a pas personne de seul qui gagne, mais Hamilton a quand même réussi depuis qu'il a un Mercedes à Tout battre les records de Schumacher. Qu'en fait, ce que je trouve drôle, c'est que oui, j'étais dans l'époque que Schumacher coursait, je suis un peu plus vieille que vous.
Clairement.
Mais on trouvait ça des fois étrange. Des fois, on disait, dans ce moment-là, on disait, même si Michael y a gagné 7 fois, s'il fait tous les records, on trouvait que Senna était le meilleur, peut-être parce qu'on l'a vu avant, on était tout. C'est ça qui arrive toujours, on était quelqu'un avant qu'on aimait beaucoup, et on dit non, même si c'est le meilleur. Mais ce que je trouve maintenant un peu spécial, c'est que des fois, on trouvait que les records de Schumacher étaient trop bizarre, et on disait c'est trop, c'est quand même trop, il devrait arrêter de faire des records. Et maintenant, ce record qui était un peu fou, un peu bizarre, il y a quelqu'un qui le donne un peu plus d'importance, parce que maintenant, il y a quelqu'un qui a réussi à tout battre tous les records. Des fois stupide, des fois bizarre, des fois n'importe quoi, qu'est-ce qu'on disait. Et c'est Hamilton, ça le donne quand même un peu plus de valeur tant que à Hamilton comme le même Schumacher. C'est spécial pour la Formule 1. Et on ne peut pas dire que quel pilote c'est mieux parce que chaque époque c'est différent, même s'il y a les numéros, même s'il y a tous les records, on peut dire non, Fangio c'est mieux parce que lui a survécu à l'époque.
Oui.
Et oui, c'est ça, on peut dire non, c'est Fangio. Des fois, pour moi, il me demande, je dis, mais c'est sûr, Fangio, c'est pas juste parce que c'était le meilleur des meilleurs, c'est parce que c'est le meilleur qui a réussi à survivre dans une époque où les pilotes, des fois, ils réussissaient pas même une course.
Ouais.
Mais, c'est ça dit, ça l'enlève rien à Hamilton. Il a fait un bon travail, c'est spécial, et il a eu tous les records, maintenant lui, il peut être content, c'est ce qu'il a dit. Quand lui, des fois, il se plaint parce que le monde, il le trouve que c'est pas le mieux, c'est pas grave. Lui, il doit être content avec lui-même, avec tout ce qu'il a fait, peu importe qu'est-ce que le monde dit de lui, mais c'est bien quand même.
C'est ça, je suis totalement d'accord avec vous, puis c'est exactement là où je vous rejoins, entre autres. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, il y a des moments où je disais, ah, Michael domine tout le temps, mais quand tu grandis au final, là, c'est là où tu te rends compte que, damn, j'ai eu la chance de voir un des meilleurs pilotes de Formule 1, dans sa génération. Puis c'est la même chose avec Lewis Hamilton. J'ai 28 ans. Moi, j'ai commencé à regarder la F1 en 96, évidemment, avec Jacques Villeneuve, mais avec Michael Schumacher, qui commençait sa carrière avec Ferrari. Ça lui a pris 4 ans avant de remporter un championnat du monde. C'est sûr que les histoires entre Schumacher et Hamilton sont différentes, mais force est d'admettre que les deux ont bâti leur légende en étant tout simplement le meilleur. Ils ont passé à travers des combats très difficiles qu'ils ont d'ailleurs remportés. Alors, ça va être la même chose avec celui qui va succéder à Lewis Hamilton, peu importe qui c'est. On a même beaucoup dit que Sebastian Vettel pourrait être celui qui se rapprocherait le plus de Michael Schumacher. Évidemment, les heures ont changé. Alors, c'était le moment pour quelqu'un comme Lewis Hamilton de relever ce défi, en fait. Et je pense que il faut, à la place de toujours remettre en question les statistiques, l'accomplissement, on devrait célébrer ça parce que c'est pas à tous les jours qu'on voit ces gens, des pilotes atteindre ces genres de records, surtout celui du nombre de victoires et encore moins le nombre de championnats du monde des pilotes que Lewis Hamilton va d'ailleurs atteindre cette année. Alors, je pense que, et ça, je sais pas si ça, Jackie Stewart nous écoute, ça me surprendrait, mais je pense que à la place de dire, ah, Hamilton, c'est pas un des meilleurs, il devrait être, je comprends qu'il a couru qu'il a vécu dans l'ère Fangio, il a été très proche de Jim Clark, mais faut pas rabaisser le succès des autres. C'est la même chose dans n'importe quel sport, que ce soit au hockey avec Sidney Crosby, Alex Ovechkin, puis Connor McDavid et compagnie, au soccer avec Messi, Ronaldo, au tennis justement avec Nadal et Federer, puis Djokovic aussi. Alors, on devrait avoir la chance de voir des athlètes qui se surpasse. Et justement, moi, ce qui me fait mal, c'est que Michael Schumacher ne soit pas là pour, sur place, en fait, pour voir cet accomplissement. Être à la place, que ce soit Mick qui lui donne ce casque, que ce soit Michael décide qu'il remet en main propre ce casque, parce que ça aurait été une excellente passe d'armes. Ça a été un peu la même chose quand Hank Aaron a... Ben, quand Barry Bonds au baseball a battu le record de Hank Aaron, malgré bon, toutes ces soupçons de prise de drogue et de dopage, en fait. Mais de voir Hank Aaron féliciter Barry Bonds, ça, c'est quand même quelque chose qui, même si j'étais petit, que je regardais un peu moins le baseball, c'était quelque chose qui, pour moi, était une belle passe d'armes, en fait. Une belle passation de pouvoir. Alors, Mick Schumacher qui remet le casque à Lewis Hamilton, c'était tout simplement magnifique.
Et si tu me laisses ajouter un petit point, Abdou,
ouais.
C'est une situation que j'ai pensée toute la semaine avec, justement, je ramène le débat sur le meilleur entre Michael Jordan et LeBron James, et je me disais, est-ce que c'est vraiment utile, et je vous pose la question, de tenter de trouver le meilleur de tous les sports? Je pense que les époques sont tellement différentes qu'on pourrait les mettre à l'égalité et ne pas tenter de toujours trouver le meilleur, alors que les, par exemple, que ce soit au tennis avec Roger Federer, Rafael Nadal, sont deux athlètes d'une puissance incroyable, et pourquoi nous tentons toujours de trouver le meilleur alors que ce sont deux athlètes qui se dépassent et qui ont des performances similaires? Donc c'est une réflexion que j'avais.
Oui, Alna Maria, je vais te laisser commencer.
Oui, à part ça, je ne voulais pas non plus estimer n'importe quel pilote, parce que c'est des opinions aussi. Chaque personne a le droit d'avoir son opinion. Et si pour lui, ce n'est pas le meilleur pilote, ou ce n'est pas celui le plus qu'il aime, n'importe quoi, parce que c'est des opinions aussi. Il faut aussi comprendre, il faut se mettre en contexte de l'époque, il ne faut pas non plus dire, parce que j'ai lu beaucoup de monde insulté Stewart parce qu'il disait que Hamilton c'est pas le meilleur. Dire non, il faut prendre en contexte aussi, c'est quoi l'époque qu'il a vécu, c'est quoi pour lui. Chose c'est son opinion, autre chose c'est la vérité. Lui, Hamilton, il a fait sa carrière, il a ses numéros, il a ses records. Ça, c'est vrai. Après, c'est des perceptions. C'est comme le monde qui dit que Alonso, c'est le meilleur, même s'il y a deux championnats. C'est ça. C'est chaque. Des fois, oui, il y a la vérité. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a aussi que on pose des questions. Des fois, c'est aussi la faute des journalistes, ils posent des questions, mais la personne répond oui. Et c'est comme Jack Binet, il va donner son opinion et chacun a son tour. Il donne son opinion, qu'est-ce que ça compte pour ou même. Et c'est des opinions que on a, tout le monde, on a des opinions, il faut aussi respecter ça. Ça, de toute façon, ça n'enlève rien à Hamilton. Ça ne le donne rien, ça n'enlève rien non plus. Lui, comme je disais avant, il faut être content qu'est-ce qu'il a réussi. Et je ne croyais même pas, quand je l'ai vu gagner sa première course ici à Montréal, qu'il va devenir... abattre tous les records de Schumacher, et on est là. Mais c'est ça, il faut que lui aussi ferme les oreilles et te fie juste de qu'est-ce qu'il a réussi, c'est tout.
C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Anna Maria. Je pense aussi que, en même temps, c'est à des comparer les heures, c'est totalement inutile. Là où je suis d'accord avec ça, Jackie Stewart et Anna Maria, en fait, c'est justement, les aires sont totalement différentes. Les réglementations en course automobile ont complètement changé. Parce que, non seulement les voitures étaient beaucoup plus dangereuses, les circuits aussi, mais tu avais, entre-temps, des pilotes qui participaient à des courses de Formule 1, mais à d'autres épreuves, participaient aux 24 heures du Mans, aux 500 000 d'Indianapolis, à toutes autres épreuves. Le nombre de courses aussi était moins élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec des calendriers d'une vingtaine de courses. Alors, c'est sûr que les époques C'est sûr que les époques sont totalement différentes, mais de là à dire bon, que c'est le meilleur de tous les temps, ou en termes plutôt général, the greatest of all time ou GOAT, il fallait que je la plug. Je pense que à un moment donné, il va falloir qu'on se calme un peu, et pas seulement en Formule 1, mais dans tous les autres sports. Je sais que j'avais mis un tweet où j'ai dit, bon, Lewis Hamilton est meilleur que Michael Schumacher. Ça, c'est personnel. C'est personnel. C'est, quelqu'un d'autre va dire que Michael Schumacher est meilleur que Lewis Hamilton. C'est correct. Que, quelqu'un va me dire que Ayrton Senna est meilleur que Lewis Hamilton. Tout est correct. Encore, il faut avoir les arguments. Mais les arguments, il y a des pour et les contre. Et l'inverse est... L'inverse peut être différent, donc je pense que il faudrait qu'on se dise, bon, c'est le meilleur de sa génération, point final. Alors, que de dire que c'est le meilleur de tous les temps comme si c'était Wayne Gretzky, il va falloir qu'on se calme un peu, parce que je suis sûr que quelqu'un va réussir à écraser le record de points de Wayne Gretzky. Encore là, même les périodes au hockey ont changé. Les périodes au soccer ont changé. Le tennis, tout a changé. Alors, en Formule 1 aussi, il faut s'y attendre. Un jour, on va dire que, par exemple, Max Verstappen ou Charles Leclerc va être meilleur que Lewis Hamilton dans 10-15 ans à peu près. Ça va être normal. Parce que eux, ils sont dans une autre ère. Alors, moi, je pense que on devrait dire meilleur de sa génération et non le meilleur de tous les temps. C'est juste quelque chose au qu'on fabule, en fait. Alors, moi, je pense que juste dire meilleur de sa génération, c'est simple comme ça. Le reste, pour avoir des débats de tranchées comme si c'était... Un débat de société, là. Calmos un peu, là. Calmos. Basta. Basta. Donc, voilà. Moi, je pense que... Je pense qu'on... Le seul truc, par contre, que je peux ajouter, c'est que à un moment donné, il va falloir que... Si la monarchie existe encore dans quelques années, que Lewis Hamilton soit nommé Sir Lewis. Comme... Andy Murray l'est en ce moment. À un moment donné, il va falloir que Lewis Hamilton soit reconnu à sa juste valeur par la monarchie britannique, mais ça, c'est autre chose.
Oui, ça, c'est aussi, c'est au choix de la royauté.
Ouais. Ouais, exactement.
C'était, il ne peut pas le gagner, ça c'est fou que... Il faut que la royauté ait le choix de le faire.
C'est ça. Et puis, une petite question rapide avant qu'on passe au prochain sujet. Est-ce que, même si Valtteri Bottas a abandonné, est-ce que vous... Même si Valtteri... Si Valtteri Bottas n'avait pas abandonné, en tenant compte de l'erreur du Finlandais au 13e tour, est-ce que vous pensiez que le résultat serait différent dimanche?
Oui, ça serait différent. Ricciardo, il n'y a pas eu de podium.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, Ricardo. C'est sûr, Ricardo n'aurait pas de podium. Mais ce que je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que... puis il y aurait, Cyril n'aurait pas de tatouage. Mais est-ce que ce serait le même vainqueur ou bien ce serait Bottas le vainqueur?
My bad. Dès que Hamilton a pris le débat, et je ne pense pas qu'il aurait changé ça. Même si Bottas y restait dans la course.
Et toi, Marc-André?
Je pense en effet que Hamilton aurait gardé sa place parce que bon, cette victoire, il la voulait, que ce soit de la manière dont il voulait aussi. Alors, oui, Bottas a fait une erreur, mais ça reste que je pense que si Bottas n'avait pas fait d'erreur à ce moment-là, il aurait trouvé une façon là, de réussir à le dépasser et à prendre position, la première position.
Oui, je suis d'accord aussi. Je pense que malgré tout, Hamilton aurait gagné ce Grand Prix quand même. Là, on va parler de Daniel Ricciardo en Amaria. parce que, évidemment, Daniel Ricciardo a profité de l'abandon de Valtteri Bottas sur un ennui de moteur pour obtenir son premier podium avec Renault depuis, en fait, qu'il s'est joint à l'écurie. Et on sait qu'il va quitter l'année prochaine pour aller chez McLaren aux côtés d'un des pilotes les plus malchanceux de ce Grand Prix, Lando Norris. Alors, on a beaucoup parlé de Renault. On se demandait, ils sont pas encore rendus là, mais force est d'admettre que vraiment, la Renault, elle est là.
Ils sont là. Il faut pas trop s'exciter non plus, mais oui, ils sont là, ils ont réussi, ils ont mis des nouvelles actualisations, des petites choses passées par la loto pour réussir, mais Ricciardo a eu son podium aussi, mais il faut pas oublier qu'il y a deux autos avec moto Renault qui se sont retirés de la course. C'est uno, c'est que tu viens de dire, les malchanceux, Lando Norris, mais Esteban Ocon aussi, son coéquipier, il était pas là, il y a eu des problèmes, et ça aussi, il faut le dire, oui, et Renault, il était là, il a eu son podium, mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés.
C'est vrai.
C'est juste, on peut dire que oui, ils sont capables de trouver la vitesse de là à l'avant, mais il faut que ça continue, il faut une continuité parce que sinon ça ne va pas marcher. Je te dis, je suis sceptique, j'attends les résultats, je ne vais pas m'emballer non plus parce que oui, ils sont là, mais il y a encore des choses à faire. C'est comme Ferrari, ils sont réussi à rester un petit peu plus à l'avance, mais il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est juste une moto qui était là.
Ouais, c'est bel et bien vrai. Par contre, je m'attends pas à ce que je vois Renault chuter de haut. Je pense que ils sont légitimes là. C'est vrai que Esteban Ocon, par contre, mais il a fait un... Avant son abandon, il était en bonne position pour marquer de gros points. Parce que quand on regarde, McLaren est à 116 et Renault en a 114 en cinquième place. Avec les points de Ocon, qui on s'entend, même s'il n'a pas connu les bons, il n'obtient pas les résultats qu'il faut, il faut admettre que ses abandons au Grand Prix de Styrie et de Toscane était dû à des problèmes mécaniques et il était en position de marquer des points. Alors, Renault doit quand même régler leurs problèmes de fiabilité, mais ils peuvent se concentrer. Mais au moins, ils peuvent se dire, on est capable d'aller chercher des gros points, comme ça a été le cas pour Racing Point et McLaren, malgré leurs ennuis en fin de semaine. Parce qu'on s'entend, toutes les écuries n'ont pas eu la chance de rouler le vendredi parce que il y avait du brouillard, puis l'hélicoptère médical ne pouvait pas voler. Alors, ça a mis presque le milieu du peloton sur un pied d'égalité, puis Renault a réussi à en profiter. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-André?
Je suis complètement d'accord. Je pense que Renault est en train de nous montrer que c'est une écurie qui est en amélioration constante. Et ça, j'aime ça voir ça. Ouais. Je me souviens d'avoir été très dur avec Renault. Ouais. Et je me souviens que je vais quand même être prudent avec eux parce que c'est une écurie qui est très, très, très peu stable. C'est peu constante, pardon. Ça va être une écurie qui va réussir à faire de bonnes performances pendant un Grand Prix et l'autre va être très décevante. Donc, je me garde un certain pied de recul avec eux. Mais néanmoins, je pense que ce sont des gros. Ce sont de gros points que Ricardo a pu obtenir. Et en regardant tout ça de l'extérieur, je pense que cette écurie-là va réussir à aller chercher jusqu'à la fin de la saison de gros points. Peut-être pas d'autres podiums, mais du moins, je pense qu'il y a une certaine pensée positive qu'il peut avoir dans le paddock de Renault. Et ça va que améliorer les choses, parce que quand une écurie connaît des difficultés, et on le voit avec Williams, on le voit avec Haas, rien ne fonctionne. Alors que là, il y a des petites récompenses qui s'en viennent pour Renault. Alors, c'est très positif. Et Ricardo, comment ne pas être heureux de voir Ricardo sur le podium? Toujours très souriant, toujours une joie de vivre incroyable. Donc, j'étais très heureux de voir, malheureusement, avec Bottas qui abandonne, mais au moins, on a pu voir Ricardo sur le podium à nouveau.
Oui, et c'est le premier podium de Renault depuis le Grand Prix de Malaisie 2011, lorsque Nick Heidfeld a terminé troisième. C'était d'ailleurs ce podium de Heidfeld en Malaisie, c'était le centième. Mais l'écurie s'appelait Lotus Renault. Oui, c'est ça, ça faisait un petit bout. Ça s'appelait Lotus Renault dans le temps, mais cette écurie appartenait encore à Renault en quelque sorte. Et là, revient en fait, c'est leur premier podium dans l'ère hybride. Et ça fait du bien. Ricardo, ça faisait, depuis sa victoire au Grand Prix de Monaco 2018, qu'il n'avait pas goûté au champagne du podium. Et encore là, il a oublié de faire un choui, mais je pense qu'en temps de COVID, on va comprendre, mais il l'a fait en fait sur Instagram. Il nous a servi un petit choui. Donc, une belle troisième place pour Daniel Ricciardo. Et devinez quoi, Anna Maria, Marc-André? C'est l'heure de notre première pause publicitaire.
Oh oui!
Ben oui! J'ai un petit message d'un commanditaire. Alors, j'aurais besoin d'un petit silence parce que j'ai un message que j'ai dû concocter gracieusement de notre commanditaire. Vous avez un employé qui appelle malade à moins de 4 heures de son quart de travail? Vous avez un employé qui a malheureusement contracté la COVID-19 et vous êtes pris de court. Ne vous en faites pas! Nous avons la solution pour vous! Les solutions Nico Hülkenberg vous aideront à trouver un remplaçant en un dixième de seconde. Que ce soit en train de prendre un café avec un ami ou en train de finaliser l'achat d'une voiture appartenant à un champion du monde, l'employé se déplacera pour vous dépanner en un instant et les résultats sont instantanés. Écoutons le témoignage de ce client.
J'ai fait affaire avec les solutions Nico Hülkenberg quand un de mes employés est tombé malade. En un instant, il m'a offert une belle 8e place sans avoir eu de pratique. Je recommande fortement cette compagnie.
Si vous désirez vous associer avec les solutions Nico Hülkenberg, visitez l'adresse suivante www.solutionnico27.com ou bien contactez l'adresse courriel solutionnico27@commercial. J'ai pas de volant pour 2021, please embauchez-moi.com. Des frais supplémentaires s'appliquent pour un podium. Et voilà, c'était notre tout premier commanditaire. C'était notre...
Je n'attendais pas celle-là.
Tout bien vu.
Pour mettre en contexte tout ça, Abdou nous avait annoncé hier, via nos communications au bulletin F1, qu'on allait avoir un commanditaire spécial lors du podcast de ce soir.
Et voilà, c'était le commanditaire. Et c'est pas pour rien aussi que j'ai fait une pause entre Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg. Je vous l'avais dit qu'on allait parler de Hülkenberg. Et voilà, c'était pour ça. Et pour vous mettre en contexte aussi, c'est parce que on a notre pauvre Lance Stroll qui est tombé malade avant la séance d'essai du... la seule séance d'essai du Grand Prix de l'Eifel. Puis, Nico Hülkenberg était supposé être présent de toute façon au Nürburgring, mais pour des... pour des... pour être consultant à la télé allemande. Et évidemment, Hülkenberg est arrivé en vitesse avec une Porsche qui appartenait, et ça c'est pas vrai, à Keke Rosberg. C'est Nico Rosberg en fait qui était présent aussi, qui nous l'a dit sur Sky Sports que cette voiture appartenait à son père en fait. Et bon, il s'est qualifié dernier, Hülkenberg, sans surprise, je pense que avec un appel de dernière minute comme cela, c'est tout à fait normal. Il connaissait, oui, il connaissait la voiture, mais rouler sur un circuit dont c'est qui, où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait cela, c'est compréhensible. Mais en course, un très bon départ. Bon, certes, il n'était pas sur sur le même régime moteur que d'habitude, mais il finit huitième. Alors, pilote du jour, n'est-ce pas?
Oui. Pas complètement. Complètement. C'est du grand Hülkenberg qu'on a vu en fin de semaine. Le genre d'Hülkenberg qui nous dit que on peut pas croire qu'il n'y a pas une écurie qui va s'intéresser à lui l'an prochain. Je pense que tu l'as dit, là, il cherche un podium, un volant pour la saison prochaine, mais c'est un pilote avec tellement de talent.
Mm-hmm.
Mais encore là, avec certains drapeaux rouges qui viennent embrouiller un peu son parcours avec le fait qu'il n'a jamais réussi à faire de podium parce qu'il ratait des occasions par malchance, par mégarde, par aussi une difficulté à gérer la pression qu'amène le podium ou une fin de course. Donc, c'est sûr qu'il y a des défauts, mais en fin de semaine, nous avons vu tout le potentiel que ce pilote peut avoir avec une voiture encore là qui, oui, connaît, mais très peu, sur un circuit qu'il connaît très peu aussi. Et le fait aussi qu'il n'a pas pu pratiquer durant les essais libres, bon, bien sûr, les autres pilotes aussi ont eu quelques petits problèmes au cours de la fin de semaine à cause du brouillard, mais ça reste que il était, en théorie, un petit peu plus désavantagé que les autres et qu'il réussit à donner des points à Racing Point, et ce sont des points importants pour la conquête de cette quatrième position en troisième. La meilleure écurie.
Troisième, parce que Racing Point est troisième.
Troisième.
Et on est tellement habitué parce que normalement, c'est supposé être la place de Ferrari, mais...
Où est Ferrari?
Ouais. On sait ce qui se passe. Et ça, c'est un autre moment. Mais,
on a fait au moins quelque chose ce fin de semaine. Hein. C'était pas si pire. Mais...
Ouais, Ferrari, c'était...
Ils sont pas là.
Ouais, sont encore loin d'être là, en fait, là, les deux voitures. Mais pour revenir à Hülkenberg, il y a Dr. Helmut Marko qui a dit que lui, il avait contacté Hülkenberg parce que apparemment il y avait un test non concluant de la COVID-19 pour Alex Albon qui ne se sentait pas très bien, mais finalement... Ça a fait en sorte, bon, il y a eu un test négatif par la suite, mais apparemment, Nico Hülkenberg aurait été celui qui remplacerait Albon si jamais il y avait eu un résultat positif. Et là, il y a toutes sortes de discussions à savoir est-ce que si jamais on disait merci à Albon, que ce serait, il serait sur la liste pour remplacer le pilote thaïlandais. Qu'est-ce que vous en pensez? Commencez par Anna Maria.
Je ne sais pas, parce que je suis un peu sceptique avec Red Bull, parce qu'ils n'ont jamais engagé un pilote qui vient d'une autre équipe. Et ils ont toujours ces pilotes à vous qui font monter. Mais c'est sûr qu'on met beaucoup de pression sur Albon, mais je ne suis pas sûr qu'il va être changé. Jusqu'à que ça arrive, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, il dit qu'il fait le travail. C'est sûr, quand Verstappen n'est pas là, lui est là pour ramasser les points. Mais au contraire, c'est un peu difficile. la course à Nouveau Green était un peu difficile pour Albon. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont le mettre dehors tout de suite, mais Red Bull, s'il veut au moins être candidat à championnat, même s'il est deuxième maintenant, il faut avoir deux pilotes qui ramassent des points et que ça soit constant aussi. Mais je sais que Nico, c'est un pilote qui peut être constant et pour ramasser des points. Il y a les deux conditions, mais la seule chose que je dis, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas un pilote qui a grandi à Red Bull. Il y a la difficulté à faire ça avec des pilotes qui ne sont pas à Red Bull. Je ne sais pas, mais on va attendre ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'il y a un bon candidat. Mais je m'inclinerai plus pour Hülkenberg que pour Pérez, parce que Dieu sait, Pérez aussi est disponible, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est plus difficile voir Pérez en Red Bull avec les conditions que lui il veut, parce que Pérez dit, je veux un auto pour gagner des places, pour gagner des championnats, pour gagner des courses. Et je ne pense pas que Red Bull cherche un pilote pour se battre avec Verstappen. Il cherche plutôt un coéquipier, un bon coéquipier.
C'est vrai. Ouais, surtout pour matcher ses résultats. Peut-être pour se matcher ses résultats, parce que c'est ça qu'on s'attendait avec Gasly et à la limite Albon. C'est sûr que beaucoup s'attendaient à...
Mais tu sais, c'est comme Hamilton, oui, est là, mais quand l'équipe y avait besoin, Bottas est là aussi pour répondre, Bottas est là pour aider aussi la course. Si c'était un peu difficile, Bottas est là pour essayer des stratégies, pour accompagner son pilote aussi, à Hamilton, mais le cas de Red Bull, c'est que Verstappen est tout seul.
Ouais, aussi.
Il se va tout seul en avant et Red Bull, oui, il y a une autre voiture, mais il n'est même pas proche, ou même pas l'utiliser pour dire on va faire une stratégie, quelque chose pour eux, non rien, il est tout seul en avant.
Ouais, exactement. Marc-André, toi, est-ce que tu penses que Hülkenberg sera un candidat potentiel pour 2021 chez Red Bull Racing? Oh, je crois qu'on a perdu la connexion avec Marc-André. Effectivement, donc, on a perdu la connexion avec Marc-André. En attendant, moi, je vais donner un peu mon opinion sur, en fait, le potentiel de voir Hülkenberg. Je sais pas trop. Oui, il serait un excellent pilote pour être le coéquipier de Max Verstappen, mais encore, il est très constant, on l'a vu, il est capable du meilleur. Mais dans les situations où, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas de podium, mais là, il a une voiture pour le faire. C'est vrai que j'ai été souvent critique. J'ai souvent été critique envers Hülkenberg quand ses opportunités se présentent. On l'a vu, entre autres, en Allemagne l'année dernière. Il faudra à un moment donné qu'il casse cette habitude de rater ses occasions, parce que dans le climat dans lequel il irait chez Red Bull, ce serait énormément compliqué, parce que tu as la pression de Helmut Marko, tu as la pression de Christian Horner et tu as aussi la pression du fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Alors ça aussi, ça va être c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose que Pierre Gasly a expérimenté. C'est quelque chose que Alex Albon expérimente en ce moment. Mais là, quand tu viens de l'extérieur, ça risque d'être un peu plus difficile, comme ça a été le cas, en fait, avec Mark Webber à un moment donné. Parce que Mark Webber est le dernier pilote qui n'appartient pas à Red Bull, qui a roulé pour l'écurie, mais il a eu Sébastien Vettel à côté à un moment donné, alors, et on sait à quel point Sébastien Vettel était est un excellent talent. Alors, c'est sûr que Red Bull a décidé de prioriser le jeune Allemand au détriment d'un Australien qui était sur une pente descendante et qui a eu une chance énorme de remporter le championnat des pilotes en 2010. Alors, si Hülkenberg se retrouve là-bas, il aura affaire avec toute cette pression. Max Verstappen, qui est très constant, ma foi, merci, et en fait, et des dirigeants qui veulent des résultats le plus vite possible. J'allais dire quelque chose d'un peu plus... une petite insulte, mais non. Mais non, c'est ça.
Oui. Mais c'est vrai, mais aussi, il faut que les pilotes qui arrivent pour accompagner Verstappen, ils doivent se mettre dans la tête de faire son travail, faire qu'est-ce qui est mieux pour lui, faire le mieux pour lui-même. Parce que s'il arrive comme Gasly, il juste à penser tout le temps en Verstappen, il ne faut pas faire ça. Parce que tu sais que c'est un pilote difficile à battre. Ils ne t'ont pas appris pour le battre. Ils t'ont appris pour aider l'équipe. Et c'est là que ça a cloché avec Gasly. Il y a trop, il s'est mis trop dans la tête de Verstappen dès le premier jour. Lui-même a dit en déclaration, je vais battre Verstappen, mais oui, mais il faut être terre à terre parce qu'on sait que Red Bull il va prioriser toujours Verstappen et ça, ce n'est pour rien. C'est parce que lui, il donne plus que ce qu'on le demande. C'est un bon pilote. On sait à quel point il a le talent et à quel point aussi lui, maintenant, il est un pilote très mature. Il a pris beaucoup. Il ne fait pas les erreurs qu'il faisait avant. C'est ça qui se met dans la tête. Tu arrives à Red Bull, tu sais que tu sais le coéquipier de Verstappen, mais il ne faut pas arriver et dire je vais me battre avec parce que ça ne va pas marcher. C'est sûr. Je pense que oui, peut-être un pilote Red Bull, il y a un peu plus de pression aussi parce que c'est des gens qui s'y font monter, ils montent dans l'équipe, mm-hmm. Ils ont comme un peu plus de compromis. Mais je pense que si c'est un pilote qui vient de l'extérieur, le seul problème c'est que il est moins. Oui, il y a la pression pour faire le travail, mais il n'y a pas dans la tête le problème et ils me vont faire quitter l'équipe n'importe quand si je ne donne pas de résultats. Pues sûrement, les pilotes qui arrivent avec un contrat signé de l'extérieur, ils ne peuvent pas les mettre dehors comme ils font, comme pourraient le faire avec un pilote de l'équipe. Mm-hmm. Parce que les pilotes Red Bull, ce sont des pilotes Red Bull. Ils n'ont pas la place garantie.
Ouais.
Et juste des pilotes Red Bull, ils peuvent les boucher comme ils veulent.
Mais c'est ça, on dit ça peut-être parce qu'Alex Albon a connu une course très difficile où il a abandonné d'abord sur ce qui était un problème moteur, mais ensuite ça a été confirmé que c'était un radiateur crevé. Il y a eu un accrochage avec Danny Kvyat qui s'est transformé en pénalité de 5 secondes. Un duel un peu raté avec Pierre Gasly où il dit « Oh, they race me so hard. Il joue dur contre moi aussi. » Un départ raté aussi où il allume ses pneus, donc il a été le premier à s'arrêter. Donc peut-être on dit ça parce qu'il a connu une course hyper difficile et c'est une accumulation des ennuis. Mais en même temps, moi, je vois peut-être un Red Bull qui va être un peu plus patient compte tenu de la situation qu'Albon a un peu moins d'expérience que Pierre Gasly, par exemple. Red Bull pourrait être prêt à donner une autre chance à Albon plutôt que de se fier sur un pilote d'expérience aussi. On verra ça. En tout cas, chose certaine, c'est que Red Bull a annoncé que Il prendra une décision avant le Grand Prix de Turquie pour savoir qui va être le deuxième pilote chez Red Bull pour 2021. Est-ce que ce sera Albon? Est-ce que ce sera Hülkenberg? Est-ce que ça pourrait être Perez? Ça pourrait être Gasly? On verra cela. En tout cas, il nous reste quelques semaines avant d'avoir la décision. Donc, ça va être quelque chose à surveiller. On va parler aussi, on va parler entre autres de un pilote dont on parle pas souvent, et qui ont marqué des points pour leur écurie. Je parle de Romain Grosjean et de Antonio Giovinazzi. Romain Grosjean termine neuvième, donc 2 points, ses 2 premiers points de la saison et ses premiers points depuis le Grand Prix d'Allemagne 2019. À Hockenheim et qui a connu une course assez rocambolesque et en plus je mets l'accent sur le mot rock parce que le pauvre a été frappé par du gravier projeté par la Alfa Romeo de Kimi Raikkonen qui est sorti au deuxième tour. Ça a frappé son index, il croyait que c'était cassé, mais avec une bonne stratégie et une bonne relance quand même, même s'il a perdu 2 places, Grosjean a marqué des points importants pour l'écurie et il n'est plus dernier au championnat des pilotes. Et d'un autre côté, il y a Antonio Giovinazzi qui a connu, d'après moi, sa meilleure fin de semaine cette saison, sorti de la Q1, et s'est rendu en Q2, a connu un bon départ et s'est quand même bien battu contre les pilotes en fait.
Oui, bien sûr. Tant que Giovinazzi et Grosjean, ils ont réussi quand même à faire une bonne course. C'est que je disais, c'était où que Grosjean a réussi à survivre toute la course
Toscane.
Italie, à Toscane. Oui, finalement, il y a eu ce point. Je pense que lui aussi le méritait à Toscane parce que quand même après tout ce qui s'est passé lui il restait pas d'accrochage, il était très bien et en Allemagne en Ukraine c'est autre bonne course pour Grosjean qui réussit à s'en sortir de la dernière place dans le championnat de pilotes aussi pour Giovinazzi. La seule chose, c'est que ça, le bonheur de quelqu'un, il fait le malheur de l'autre. Mm-hmm. Et c'est le pauvre Russell qui se retrouve au dernier place. C'était quand même dur pour lui.
Ouais.
Parce que même Nico Hülkenberg qui a juste appris tout départ, parce que Silverstone, il m'a pas pris le départ.
Ouais.
Lui a pris 2 départs dans les championnats. Lui se retrouve 15 dans les championnats. Et ça, c'est comme c'est dur pour William. On a oublié un petit peu William parce qu'il s'était venu. L'écurie a changé de nom et tout ça. Je pense que les changements, d'un côté, ça fait du bien parce qu'on ne parle plus. On parle plus de Claire, rien, mais quand même, il se retrouve au bout, à la fin, ils ont rien profité, il n'y a aucun point pour William, et ça, c'est très, très, très dommage.
Ouais, mais on voit que William s'améliore pour vrai. Dommage pour George Russell, parce que là, c'est un abandon dont il n'est pas responsable. C'est Kimi Raikkonen, en fait, dont c'était son 323e Grand Prix, qui a pulvérisé, en fait, le record de Rubens Barrichello. Raikkonen a tout simplement mal jugé son dépassement, son freinage, et vient s'accrocher avec la Williams de Russell, ce qui résulte en une pénalité de 10 secondes. Puis ça, je pense que c'est une pénalité indéniable. C'est carrément la faute de Raikkonen, en fait. Mais c'est dommage pour George Russell.
C'est,
c'est,
Oui, c'est dommage pour Russell, c'est quand même, c'était clair que c'est la faute de Raikkonen. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que oui, c'est à peu près la même chose qui s'est passée avec Stroll et Leclerc la en Russie. Il n'y a pas aucune pénalité, aucune rien. Et c'est là qu'on dit ben, la FIA il maintient la constance. Il y a des pilotes qui se font pénaliser tout le temps. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une raison de pénaliser Kimi, mais c'est juste qu'il laisse quelques-uns qui s'en sortent tout le temps.
C'est ça. Et justement, on avait beaucoup parlé de l'inconstance des commissaires de la FIA lors du podcast post-Grand Prix de Russie. Donc, c'était il y a trois ou quatre épisodes précédent. Alors, si vous voulez écouter notre débat là-dessus, ça va être disponible sur notre site Bulletin F1. Ben, en fait, c'est déjà disponible sur notre site Bulletin F1, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une inconstance, mais là-dessus, je pense que c'est clair, net et précis que Raikkonen ne... Ben, en fait, que Raikkonen mérite sa pénalité, et je pense que c'est... Ben, c'est vrai qu'en même temps... La FIA devrait faire mieux en termes de gestion des pénalités. Alors, voilà, c'est ce qui complète le retour sur le Grand Prix de l'Eifel. Dans deux semaines, ce sera le Grand Prix du Portugal, donc sur un nouveau circuit, carrément nouveau circuit, comme on l'a eu avec Miguelo. Ce sera Portimão. Et on va passer à un autre sujet, en fait. On va parler de 2021. On va parler du calendrier, en fait, parce que aujourd'hui, en fait, ben, mercredi, Chase Carey, le PDG de la Formule 1 de Liberty Media, en fait, était l'invité de Tom Clarkson dans le podcast officiel de la F1, Beyond the Grid. Et évidemment, il a parlé de la vie de Carey et tout, son parcours professionnel. Mais il a aussi parlé du calendrier 2021. Parce que normalement, à cette période-ci de l'année, entre juillet puis même décembre, on devrait déjà parler de planification du calendrier. On aurait même déjà le brouillon des courses, en fait, qui seront au programme pour 2021. Mais rien de tout cela est sorti. Évidemment, avec le contexte de pandémie, on est actuellement dans la deuxième vague et on ne sait pas si on aura une troisième qui pourrait commencer en 2021. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Mais Chase Carey a dit que le calendrier de l'année prochaine devrait ressembler à ce qu'on devait avoir cette année. Par contre, il se pourrait que des courses soient déplacées, évidemment pour des raisons logistiques, mais aussi pour des raisons plus gouvernementales. Comme par exemple, le Grand Prix d'Australie pourrait être déplacé soit en septembre plutôt qu'en mars, évidemment, parce que c'est un circuit temporaire, c'est un circuit où évidemment on a besoin de fans parce que les revenus sont générés entre autres avec la vente des billets, tout comme le Grand Prix du Canada entre autres. Mais donc la saison de ce que j'ai lu, de ce qui est rapporté en fait entre autres par le site indépendant Race Fans, pourrait commencer au Bahreïn avec des essais hivernaux qui auraient lieu au circuit de Sakhir. Mais on aurait un calendrier probablement similaire à ce qu'on a ce qu'on aurait dû avoir en 2020, avec peut-être même avec possiblement le retrait du Grand Prix du Brésil et l'ajout d'un Grand Prix en Arabie Saoudite, possiblement. Alors, Anna Maria, est-ce que tu penses que on aura un calendrier 2021 en béton, ou bien on va probablement se fier au jour le jour? Est-ce que tu crois que le calendrier 2021 sera béton, ou on aura peut-être une réalité comme on a eu cette année.
Mais je pense qu'après qu'ils vont réussir à finir la session 2020, ils vont bien regarder qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que ça devrait à peu près ressembler à la même chose qui s'était prévu pour cette année, parce que de toute façon, il y a des cours qui se sont annulés, qui se sont déplacés, mais il y a de toute façon déjà un compromis avec les circuits, il y a un contrat, il faut le faire. Mm-hmm. Il faut le faire, mais il faut avoir aussi les conditions. Et je pense que à ce point-là, on a déjà comme appris beaucoup, même, oui, il y a la deuxième vague et tout, mais on apprend à chaque jour à faire qu'est-ce qu'on peut. Par exemple, ici au Québec, on maintient les écoles ouvertes et ça va bien. On ne peut pas dire que ça va mal. Et je pense que en Espagne aussi, on fait ça et ça va venir les jours à jour. Il faut se garder un petit point de discrétion si vont sortir les calendriers quand même, parce que ça dépend aussi de chaque pays. Je sais que Japon est très restrictif maintenant sur les conditions, juste parce que où il veut absolument à faire les Olympiades.
Ouais.
Les géos, c'est sûr, et c'est comme très difficile. C'est une course que je pense qu'il pourrait pas comme être en béton ou la programmer avant les jeux. C'est ça le problème.
Ouais.
Oui, mais de toute façon, c'est à peu près le mois de septembre, fait que ça aurait pas de problème. Mais si ça change à Australie aussi, mais. Oui, il peut lancer le calendrier, mais on ne peut pas dire que ça ne va pas changer. Parce que de toute façon, il ne peut pas contrôler ce qui se passe le jour à jour, à chaque pays, et on ne sait pas où on sera d'ici à le mois de mars l'année mm-hmm. prochaine.
Ouais.
On espère qu'il va aller mieux. Et à quelques places, on a appris à vivre avec. C'est ce qu'on ne peut pas arrêter. Mais il faut que la situation améliore et que tout se peut marcher. Parce qu'on peut sortir le calendrier et dire oui, c'est le calendrier, mais c'est ça. Ça dépend aussi de la situation si ça va marcher. C'est sûr que les courses nouvelles, ultimement, le Grand Prix de la Toscane, l'autre qui va voir en Italie. Qu'on s'appelle les circuits, j'oublie tout. Imola.
Imola, oui.
Imola, c'est des courses qui ne vont pas juste pas rester. C'est ceux qui vont favoriser tout ce qui est déjà signé.
Ouais.
Et tout ce qui est déjà signé et qu'il faut le faire. Ça va changer, mais il faut être un peu prudent. Il faut attendre qu'est-ce qui va arriver d'ici l'année prochaine. Si aujourd'hui, j'ai fait une interview avec, je sais pas, Tatiana Calderon, tu connais?
Oui.
Et c'est la même chose pour elle. On parle avec les pilotes, et dit, on apprend, on travaille les jours à jour, on s'attend s'il y a des courses, s'il est capable de faire des courses, on fait les jours à jour, et c'est ça la situation maintenant, on ne sait pas où on s'en va. Mais on profite tant qu'on peut, parce qu'elle il court à la super formule japonaise.
Mm-hmm.
Mais avec toutes les restrictions qu'il y a en Japon, il a fait juste un cours. Il ne peut pas, la fin de semaine, il va voir encore la course, mais il ne peut pas y aller. Les pilotes qui sont hors de Japon, il ne peut pas rentrer, parce que s'il rentre, il faut, même s'il y a un test positif, même s'il y a la boule, mais avec toutes les conditions qui mettent la FIA. Por ejemplo, por la Fórmula 1, il faut qu'il fasse les 14 jours.
Oui.
Avant de pouvoir faire quelque chose. Et non. Ça, c'est très difficile, parce que tu peux pas arriver 14 jours avant, rester 14 jours à rien faire pour juste pour courir, c'est c'est difficile, c'est pas possible. Quand il y a des pilotes qui font d'autres courses ici en Europe et après il faut qu'ils s'en aillent, non, c'est trop difficile aussi. C'est pour ça qu'il a dit, c'est oui, il peut faire le calendrier, mais il peut pas rester en béton parce qu'on sait pas où que on s'en va.
Oui, exactement. Puis, si on peut dire, avec ce qu'on a eu, on a eu des programmes doubles sur le même circuit, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. On a eu l'ajout de circuits qui n'étaient pas prévus au calendrier à la base. Par contre, je ne pense pas que les courses à Mugello, pardon, et à Imola vont revenir parce que c'était pour des occasions spéciales. Entre autres, Mugello, c'était parce que c'était pour célébrer le millième Grand Prix de Ferrari en Formule 1. Et le circuit appartient justement à Ferrari. Même chose pour Imola. Mais je pense que des circuits comme Istanbul, Portimão, ou bon, la situation au Portugal, bon, il y a des cas qui augmentent, mais lors de la première vague, ils l'ont bien contrôlé. Il y a quoi d'autre aussi? Le Nürburgring aussi, Hockenheim à la limite. Donc, tout ça pourrait être des solutions de rechange. Même organiser une course en programme double. Et moi, de ce que je vois, c'est que probablement pour les circuits temporaires comme Melbourne, Monaco, même le Grand Prix du Canada et le Grand Prix du Vietnam, qui n'a officiellement, et je dis ça comme ça, n'a pas été officiellement annulé ni replacé dans le calendrier. Ça, c'est officiel. Mais je sais qu'il y aura une course en 2021 si tout va bien. Mais tout cela, eux, ils auront besoin de fans parce que ils peuvent pas bloquer les rues et tenir des courses à huis clos, comme ça a été le cas lors des 8 premières courses de la saison. Alors, à un moment donné, peut-être que la FIA, la Formula One Management, devrais-je dire, va essayer de trouver un moyen auprès des instances gouvernementales, de la santé publique, pour trouver un moyen de tenir une course tout en respectant les mesures sanitaires. Mais c'est sûr que ça va créer un énorme débat. Puis je ne serais pas surpris si certains gouvernements disent non, 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 non. C'est à huis clos où il n'y a pas de Grand Prix. Je ne serais pas surpris du tout. Et c'est là, justement, où des circuits de rechange comme ceux que j'ai nommés, Istanbul, Portimao, Nürburgring, Hockenheim, name it, tous les circuits de grade 1 qui ne sont pas au calendrier, pourraient agir comme Joker. Comme ça va permettre à la Formule 1 d'avoir une saison complète, sans interruption, ou sans annulation complète où on passe des semaines sans course. Alors, tout ça reste à voir, mais comme on l'a vu cette année, on vit au jour le jour. Puis Dieu merci, il n'y a eu aucune course et on touche du bois, mais il n'y a eu aucune course qui a été annulée ou reportée. Et encore moins les cas de. Il y a eu très peu de cas comparés au nombre de tests qui ont été effectués. Alors là-dessus, je dois dire chapeau à la FIA d'avoir très bien géré cela. Ils ont dit que ça pourrait inciter les. Ben, pas inciter, mais ça pourrait convaincre les gouvernements à dire oui à l'organisation des courses. Ça, c'est. Comme j'ai dit, le dernier mot va être probablement au directeur de santé publique national, local ou national, mais tout cela, ça reste à voir. Alors, oui, on pourrait dire. Ils pourraient nous présenter le calendrier 2021 comme étant officieux ou officiel, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit coulé dans le béton. Je ne souhaite aucune annulation, mais si jamais il devait arriver des problèmes comme on l'a eu cette année, je ne serais pas surpris si on nous disait ben, telle course est annulée, puis on va la remplacer par une autre. Donc, il va falloir qu'on se prépare en 2021 à ce qu'on ait ça. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais il faut se préparer à toute éventualité, comme on l'a eu malheureusement cette année.
Oui, je pense aussi que dans un été, comme est-ce que on a un été ici quand même au Canada, et l'été il était pas mal tranquille côté cas, côté pandémie, mais dans ce contexte-là, par exemple, au Canada qui était déplacé pour l'année prochaine, mais avec tout ce que ça implique, parce qu'il y a beaucoup de billets qui se sont vendus, fait que on a préféré pas de remboursement, on laisse les billets, et c'est aussi la même chose qu'on fait en Espagne. Il y a beaucoup de pays qui ont annulé des courses avec des publics et ont comme déplacé à l'année prochaine. Le monde qui avait déjà acheté des billets, il a décidé, ok, on garde les billets pour l'année prochaine. Mais j'espère qu'ils vont réussir à le faire, parce que de toute façon, c'est quelque chose à l'extérieur. Pendant l'été, je pense qu'avec la chaleur et tout ça, parce qu'on est à l'extérieur, tout est plus tranquille aussi. Fait que j'espère que ça va quand même réussir. On a quand même profité de l'été, on a beaucoup voyagé et les cas, ils sont commencé à apparaître juste quand ça commence à faire un peu frais.
Ouais, mais et François-Louis Dumontier l'a dit aussi, en 2021, il faut qu'il y ait des spectateurs. Alors,
oui, il faut aussi qu'ils ouvrent les frontières, que ça soit plus facile, parce que c'est ça l'autre problème. Ouais. Nos voisins, on est coincés.
Ouais, parce que les frontières, la frontière canado-américaine est encore fermée. Alors, tout ça, c'est un autre défi aussi à pour certains pays, entre autres le nôtre. Donc, si par exemple, ça force des avions à faire des escales aussi, ça pourrait compliquer la tâche, et ça forcerait aussi une mise en quarantaine obligée aussi. Alors, tout ça, ça va être pris en compte. Mais en attendant, on va attendre de ce que le calendrier 2021 va donner. Personnellement, je pense qu'on n'est pas pressé présentement d'avoir le calendrier tout de suite. Je comprends, parce que je pense que les gens vont comprendre que on est dans des circonstances exceptionnelles, et je pense que la FIA ne veut pas faire la même erreur où on arrive au Grand Prix. Heureusement, le Grand Prix d'Australie, de ce que j'ai lu, devrait avoir lieu en septembre, mais j'espère que la FIA a appris de leur leçon du Grand Prix d'Australie de cette année.
Il a appris beaucoup, parce que j'ai dit, tant qu'il a fait, il était déjà là avec tout le monde qui était déjà là, le public, il était déjà mêlé avec tout le monde, la foule, mais que j'ai dit, tant qu'il a fait, tant pis, il y aurait couru,
c'est tout. C'est ça, donc... on verra ce que ça va donner 2021, mais présentement, on va se le dire, on va vivre au jour le jour. On va se croiser les doigts, on va toucher du bois, on va tout faire pour qu'on ait un calendrier 2021 similaire à ce qu'on aurait dû avoir avant le début de la pandémie de la COVID-19. Alors, c'est ce qui va compléter cet épisode du Bulletin F1. Malheureusement, Marc-André n'a pas pu continuer avec nous parce qu'il a eu une panne d'électricité, le pauvre. Mais on le remercie. Si tu nous écoutes, Marc-André, un gros merci. Puis on va se retrouver lors du prochain épisode. Mais nous aussi, on va vous retrouver lors du prochain épisode. Entre-temps, si vous voulez écouter ou partager cet épisode, vous pouvez le faire. Notre balado va être disponible sur notre site bulletinf1.com, où vous pouvez lire les top et contre-performances après chaque Grand Prix, les avant-courses, quelques chroniques quand il y en a, et évidemment tous les autres épisodes de notre podcast. Et parlant de podcast, Le tout sera disponible sur vos applications préférées, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher et autres. Et n'hésitez pas à partager le tout si vous avez aimé ça. Et à nous laisser aussi des commentaires, des critiques pour qu'on puisse s'améliorer. Alors, n'hésitez pas, la porte est toujours ouverte. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. Anna Maria, un grand merci.
Et merci à toi et merci, comme toujours, à tous ceux qui nous encouragent à chaque semaine et nous écoutent.
Oui, exactement. Et puis, ça fait tellement du bien d'avoir du monde qui nous écoute, qui partage nos opinions, qui ne sont pas d'accord aussi. Alors, merci à tous. Et j'espère qu'on va continuer à parler de Formule 1, évidemment, comme ce sera le cas la semaine prochaine. Alors, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir ou bien bonne journée, peu importe où vous êtes.